Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. On va passer toute cette émission avec l'un des plus fins observateurs de notre société, de notre époque. C'est François Sureau, conseiller d'État, avocat, colonel de réserve dans la Légion étrangère, écrivain, membre de l'Académie française. Il vient de publier « S'en aller » aux éditions Gallimard, un livre assez surréaliste sur les pérégrinations de l'existence. Bonjour François Sureau.
Bonjour.
Dans S'en aller, vous racontez les vies en mouvement d'un certain nombre d'excentriques dont les quêtes ont toutes été plus ou moins vaines, que ce soit Victor Hugo, Laurence d'Arabie, Paul Nizan, Kim Philby, Somerset Maugham, André Breton, Huysmans ou Pierre Loti. Qu'est-ce que vous avez de commun avec eux ?
Je ne sais pas en tout cas si leurs destinées sont vaines, mais elles ont, pour la plupart d'entre elles, produit d'assez beaux résultats, y compris des résultats littéraires. Donc si en fait il faut se ranger au nombre des vains ou des ratés, on est assez content que ça soit en compagnie de ces gens-là. Ce que j'ai en commun, j'ai découvert d'ailleurs chemin faisant, ce sont tous des auteurs qui m'accompagnent depuis que je suis très jeune, et en fait j'ai découvert ce chemin faisant que... Je partageais avec eux un désir de s'en aller qui trouvait son origine dans le sentiment de n'être pas tout à fait là, à l'endroit où on est au moment de s'en aller, c'est-à-dire avant même qu'on s'en aille. C'est-à-dire un sentiment d'étrangeté assez radical.
Mais qu'est-ce qui pousse à s'en aller, d'après vous ?
Précisément. C'est-à-dire que je pense que ce qui pousse à s'en aller, c'est qu'on n'est déjà pas là dans l'endroit que l'on va quitter en s'en allant. Et que donc, la pérégrination du voyage... vous fait en quelque sorte coïncider pleinement avec ce sentiment d'étrangeté à soi-même et d'étrangeté à l'existence. Et ça donne des résultats extrêmement variés, naturellement. Mais c'est ça qui m'a retenu avec ce sentiment de fraternité que j'ai éprouvé à l'égard de ces auteurs. Alors, certains sont des grands comme Victor Hugo, d'autres sont infiniment moins connus comme Henri Levet, le poète de l'Armont Béique des Messageries Maritimes, ou Auguste François, un consul maboule de la frontière de Chine, qui a été un très très grand photographe et qui a laissé d'ailleurs des photographies vraiment exceptionnel. Voilà, donc j'ai vécu dans la compagnie de ces gens-là.
Vous dites, François Sureau, que c'est vers le passé que vous vous êtes dirigé, le vôtre et celui des autres, hein, et que le passé est aussi imprévisible que le présent, aussi inattendu que l'avenir.
Bien sûr, alors d'abord, on se tourne vers le passé, parce que, bon, d'abord, dans le présent, on n'a pas toujours l'occasion de vivre des aventures extraordinaires à la minute où l'on écrit, en tout cas. L'avenir, par hypothèse, on ne le connaît pas. Le passé a cet avantage de permettre de creuser dans le tuf du temps, dans la substance du temps, des espèces de carottes, vous savez, comme les carottes de forage, assez infinies, et on ne sait jamais ce qu'on va trouver. J'ai été, par exemple, quand j'ai écrit ce livre, j'ai été amené à m'interroger un peu plus sérieusement sur la destinée de certains auteurs que j'aimais. Moi, j'ai toujours aimé Victor Hugo, par exemple. Bon. Mais j'avais une connaissance assez imprécise, je l'avoue, honte à moi, des raisons qui l'ont fait partir à Guernsey. Je le voyais comme un républicain fanatique, encore qu'il ait été avant royaliste, membre de la Chambre des Pairs, etc., etc. Enfin, en tout cas, comme un républicain fanatique, ne supportant pas l'Empire et allant tonner sur son rocher. En fait, c'est pas rigoureusement ça qui s'est passé. Et on le découvre, et ça donne à ses destinées un caractère un peu imprévisible, un peu insaisissable, qui est, au fond, le caractère de nos destinées à nous. Hugo, par exemple, j'ai trouvé ça, d'ailleurs, en lisant un livre remarquable de Frédéric Mitterrand, qui est mort récemment, était en fait un fanatique de Louis-Napoléon Bonaparte.
Oui, il l'a beaucoup aidé.
Il l'a aimé, il l'a aidé, il a créé un journal pour le soutenir, et il voyait en lui une manière de réconcilier les Français avec eux-mêmes, la Révolution avec l'Empire, la Révolution et l'Empire avec la Royauté, l'Ensemble avec la République, le souci des classes populaires, enfin, et pour lui, Louis-Napoléon président, bon, manque de chance, Louis-Napoléon a décidé de se proclamer empereur et de supprimer une large part des libertés, au moins dans la première partie de son règne, et d'établir un régime assez dictatorial, et c'est là où Hugo est parti sur son rocher. Et je me suis interrogé, Hugo adorait Napoléon Ier, celui qu'il appelait Napoléon le Grand, qui n'était pas non plus un libéral fanatique.
Mais dont le général Hugo était un fidèle,
et je me suis demandé, serait-il parti au moment du consulat, quand Napoléon... Bonaparte, à l'époque, stabilisait les acquis de la Révolution, créait le Code civil, le corps préfectoral, l'université, en ayant supprimé les libertés, bien sûr, mais serait-il parti ? Je ne sais pas. C'est toute l'ambiguïté de Victor Hugo, et c'est ça qui, dans la plupart de ses destinées, cette part de hasard, qui est la même que celle qu'on rencontre dans nos vies ordinaires, cette part de hasard m'est apparue immensément poétique.
Mais après, on forge les légendes, et on tâche de s'y tenir, mais c'est vrai, pourquoi fait-on tel choix ou tel autre? Pas forcément de s'en aller, d'ailleurs, mais aussi de choisir, tout simplement, une vie. C'est une suite de choix, et on ne sait pas toujours très bien pourquoi
on
les a fait.
On ne le sait pas, et c'est d'ailleurs parce qu'on ne le sait pas que je n'ai jamais aimé les biographies. J'ai toujours trouvé que les biographies, de celles de Painter sur Proust, aux biographies de Laurence d'Arabie, j'ai toujours trouvé dans les biographies quelque chose d'arbitraire, où la surinterprétation est reine, et en tout cas quelque chose qui ne donne pas le résultat que nous pouvons espérer quand, s'il y a un au-delà, le jour du jugement dernier, on nous dira voilà exactement à quoi a ressemblé ta vie. Bon. Et donc, les biographies m'ont toujours été, avec cette question que vous soulevez, qui est pourquoi va-t-on à droite ou pourquoi va-t-on à gauche? Dans un assez grand nombre de cas, c'est affaire de circonstances. Je ne sais plus qui disait, je ne sais plus si c'est pas Lorca qui disait « je suis moi et ma circonstance », l'homme et la circonstance, la rencontre mystérieuse de l'homme et de la circonstance. Donc on n'en sait rien. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'ensemble de ces hasards successifs, de ces décisions successives, ont donné lieu à des trajectoires, ont donné naissance à des trajectoires assez légendaires où nous pouvons, pour employer un terme moderne, nous ressourcer, qui peuvent nous faire rêver, qui peuvent nous faire rêver d'être meilleurs aussi, et d'accorder pleinement nos choix à notre personnalité.
Dans les biographies, comme dans les biopics d'ailleurs, les films qui racontent la vie d'une personnalité, on cherche en général une unité. Or, vous le dites dans votre livre, François Sureau, vous n'avez jamais trouvé d'unité à votre vie. Est-ce que c'est un problème ?
Ah non, non, non. Enfin, c'est un problème quand on n'a pas fait la paix avec soi-même, quand on est en situation de paix avec soi-même, quand on a admis qu'on ne trouvait pas d'unité à sa vie, c'est beaucoup plus facile. Ça n'empêche pas d'avoir une certaine nostalgie de l'unité, au moins d'une unité de façade, vous voyez. Vous avez raison de dire les biopics, toutes ces choses donnent des aspects d'histoire sainte à la vie individuelle. Prenez Jean Moulin, par exemple. Bon. Jean Moulin, il est maintenant le Panthéon lui-même, et tout le monde se souvient de la figure monolithique du général, des envols de Malraux, etc. Mais Jean Moulin, quand on regarde en détail, était aussi autre chose. Il adorait aller au Dôme, il mangeait des huîtres, il s'est endetté pour acheter des voitures de sport magnifiques, notamment une Amilcar. Ses correspondances sont pleines de détails relatifs aux moteurs de voiture. Il avait des relations avec des tas de femmes. Et donc c'est ça aussi Jean Moulin. Et ce qui m'est toujours apparu extraordinaire, c'est le mélange des deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment où l'héroïsme, l'engagement, la légende se branchent sur quelque chose de beaucoup plus personnel. Dans les photos que je préfère, il y a une photo du général de Gaulle qui est pour moi la mélancolie même, qui est prise à Bordeaux, au Chapon Fin, ou un des grands restaurants où l'élite allait au moment de la défaite. Il est à Bordeaux, c'est la veille de son départ pour Londres, on est le, je sais pas, 16 juin 1940, il est seul à une table, d'autres gens sont partis visiblement parce qu'il y a d'autres couverts, il est en uniforme, il a un verre devant lui, il est renversé sur l'arrière de sa table, il a une clope au bec et l'air profondément rêveur.
Je vois très bien cette photo.
Vous voyez cette photo? Et pour moi, voilà, ça donne plus à rêver que le général en tenue devant Dakar avec ses jumelles, quoi.
On fait une pause et on va revenir au général de Gaulle, hein, François Sureau.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes ce matin avec François Sureau qui publie S'en aller aux éditions Gallimard, et dans S'en aller, vous dites que vous aimez De Gaulle pour ses départs. Pour Londres, bien sûr, mais aussi pour Baden-Baden en mai 68. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on peut comprendre, l'idée d'en avoir assez, vous voyez. C'est pas le genre, les Français sont dévots, quoi, mais on peut comprendre l'idée d'avoir...
Du découragement.
Comprendre l'idée du découragement, et puis on peut... ce qui est merveilleux, c'est d'observer la société de points de vue différents. Moi, j'ai toujours eu une fascination étrange pour mai 68, par exemple. Mai 68, après tout, il y a plusieurs manières de le voir, mais l'une des manières de le voir, c'est une collection de bourgeois adeptes du pire totalitarisme, après le totalitarisme nazi qui est celui de Mao Tse-Tung, essayant de renverser l'homme qui avait sauvé l'honneur de la France en 1940. Quand vous voyez ça avec cet œil-là, si vous voulez, vous voyez quelque chose tout à fait différent de ce qu'on vous vend d'habitude lorsqu'on vous parle de mai 68. Et dans ces conditions, vous comprenez assez bien le côté qu'ils aillent au diable et moi je vais à Baden.
Mais il y a d'autres départs du général que vous ne mentionnez pas. Son départ du pouvoir en janvier 46, par exemple, ou son départ du pouvoir encore en avril 69.
Alors ce dernier départ est assez merveilleux parce qu'il est... on en rêve maintenant, si vous voulez, que la... Enfin, ce que je dis est tellement banal, mais je pense que quelqu'un de ma génération en rêve maintenant que la scène politique est envahie par des hologrammes communicants dont le seul but paraît être de se maintenir longtemps possible dans des fonctions qu'ils ne sont aucunement qualifiés pour exercer et dont on peut se demander d'ailleurs pourquoi ils ont pensé qu'ils étaient qualifiés pour les exercer. Vous savez que Bonaparte disait « il n'y a pas de pire faute pour un homme » que de faire un métier qu'il ne sait pas. Je trouve cette phrase absolument remarquable. Bon. Alors évidemment, par rapport à tout ça, faire un référendum, d'ailleurs absurde, le perdre, et ensuite écrire simplement « je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République, cette décision prend effet à midi », et s'en aller, est quelque chose de réjouissant, mais tout comme est réjouissant, parce que c'est un appel d'air en réalité sur autre chose que la politique, s'agissant du départ du général, l'anticipation par lui de son dernier départ, qui était sa mort. Vous vous souvenez qu'il avait dit ce qu'il a redouté après la mort, l'événement dont je parle, il parlait de sa mort, ce n'est pas le vide, c'est le trop-plein. Et après sa mort, évidemment, il y pensait, il avait rédigé ce testament, qui est un testament janséniste. Vous vous souvenez du testament, c'est magnifique, c'est « je ne veux ni parlement, ni ministre, ni représentant des corps constitués, je refuse qu'aucune décoration me soit conférée ». Le peuple de Paris pourra, s'il le souhaite, rendre un dernier hommage à ma mémoire. Enfin, c'est pas les hommages nationaux, hein.
Non, c'est vraiment... On en est vraiment loin. C'est une façon de partir.
C'est une façon de partir, oui.
Revenons à cette unité que vous n'avez jamais trouvée dans votre vie, François Sureau. Je rappelle que votre cursus, hein, élève chez les jésuites, énarque, conseiller d'État, vous avez travaillé en entreprise assez brièvement avant de devenir avocat, défenseur des droits de l'homme et des libertés public, puis colonel de réserve dans la Légion étrangère. Vos activités militaires ont duré 15 ans. Hein. Vous étiez en ex-Yougoslavie, au Cambodge, en Afghanistan, au Mali, et puis écrivain, mais je devrais dire écrivain d'abord, puisque votre premier livre est paru, vous aviez 25 ans et vous avez été élu à l'Académie française à 63 ans. Là-dedans, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas d'unité même de façade.
La seule unité, en fait, il y a deux unités. Il y a une unité, s'agissant du rapport à la vie sociale ou politique, il y a certainement une sorte d'unité qui n'est pas à ma gloire, hein, qui est une unité à laquelle je me suis toujours senti, appartenir plutôt au gouverné qu'au gouvernant, c'est-à-dire assez incapable d'ambitionner de gouverner les autres, n'ayant pas suffisamment d'idées, de tempérament ou peut-être d'énergie pour ça.
Moi, pardon de vous interrompre, j'ai pensé que vous vous méfiez du pouvoir, y compris du vôtre.
Bien sûr, je m'en méfie absolument. Et l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas porté à la critique des hommes politiques, même les pires, enfin sans aller dans les excès naturellement, c'est que je sais très bien que je serais devenu comme eux si je m'étais trouvé à la même place. Il me suffit de les regarder 30 secondes pour m'en rendre compte. Sous cet aspect-là, la seule unité que je peux trouver, c'est, je crois au fond qu'il y a deux types d'hommes, et ceci a à voir probablement avec la méfiance du pouvoir, ceux qui se sentent capables, au sens propre du terme, d'influer sur leur destin de leurs contemporains en prenant leur vie en charge. Mais ceci, d'ailleurs, va du rôle de Premier ministre ou de Président de la République au rôle de juge ou de préfet, hein, je veux dire, être capable d'assumer. Et puis ceux qui, éternels enfants, voient leur vie, sous le rapport des choses à quoi ils tiennent, comme consistant à tirer l'adulte par la manche et à lui dire « tu ne devrais pas faire ça, ça n'est pas bien ». Voilà. Et pour le meilleur et pour le pire, je me suis plutôt retrouvé de ce deuxième côté. Mais en réalité, tout ceci est anecdotique par rapport à ce qui a été pour moi, ce qui est pour moi véritablement la substance de mon existence, qui est la littérature, en écrire, en lire. Enfin, j'aurais passé l'essentiel de ma vie à lire et à écrire, en réalité.
Justement, vous parlez beaucoup d'Arsène Lupin dans ce livre. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce personnage ?
Ah ben, il y a énormément de choses qui me fascinent chez lui. La première chose, c'est que c'est un double. Alors, pour quelqu'un qui, comme moi, s'est toujours senti en dedans et en dehors, à droite et à gauche, etc., le thème du double est évidemment très saisissant. Arsène Lupin est double. Il est à la fois le fils d'une aristocrate séduite et d'un professeur de boxe. Il est à la fois malfrat ou cambrioleur une partie de son existence. Et puis, il est de l'autre côté chef de la sûreté sous le pseudonyme de Le Normand. Le thème du double est partout. La femme aux deux sourires, la demeure mystérieuse, qui sont en fait deux maisons différentes qui sont exactement la même. Le thème du double est partout chez Lupin, et donc je crois que ça avait un... Et puis, un deuxième élément que Michel Zinc avait mis en valeur dans une remarquable préface en poche aux œuvres complètes de Maurice Leblanc, qui est le thème de l'humiliation chez Lupin. Qui fait que, par exemple, contrairement à beaucoup de lupinistes ou de lupinologues, j'ai beaucoup aimé la série, ou moi j'ai regardé la première saison, mais la série de avec Omar Sy, vous savez, sur Arsène Lupin, parce que c'est visible là. Arsène Lupin, en fait, c'est une revanche permanente sur l'humiliation. Par l'acquisition de faux titres nobiliaires, par l'acquisition de positions de pouvoir, par l'influence, et véritablement, Lupin est un enfant humilié, au sens de Bernanos.
Vous ajoutez, Lupin m'a changé en familier de la nuit, comme Robin des Bois en familier de la forêt. Est-ce que ça veut dire que la lecture suffit? Que le pouvoir des livres et des écrivains est si grand?
Alors, elle suffit, enfin, d'abord, elle suffit probablement, au sens où elle suffit à déclencher des choses pratiques, parce que ce que j'écris là, ça n'est pas du tout, c'est pas du tout parole verbale, c'est-à-dire que je lisais, et c'est vous dire à quel point j'ai quand même été longtemps assez maboule, je lisais Lupin, et les passages nocturnes de Lupin sont magnifiques, dans La Comtesse de Cagliostro, dans cette manière, même dans L'Aiguille Creuse, cette manière d'arpenter le pays de Caux à la nuit, enfin, où les ombres, où tout est différent, où les couleurs se fondent dans une espèce d'estampe incroyable, enfin bon, résultat, comme je lisais ça sans discontinuer, un beau jour, avec un de mes amis, on a essayé de le faire vraiment, et on a passé des centaines de nuits sur les routes en vélo, en allant de Dieppe à Étretat, d'Étretat à Beauvais, de Beauvais, etc., pour vivre dans Lupin. J'ai fait la même expérience avec Le Grand Maulne. J'étais fasciné par le bal des enfants, vous savez, et comme j'étais fasciné par le bal des enfants, je peux avouer maintenant que j'ai parcouru pendant des années, j'étais très jeune quand même, hein, mais que j'ai parcouru pendant des années la Sologne à pied, dans l'espoir de voir apparaître le château du bal des enfants au détour d'une forêt. Voilà.
On fait une pause, François Sureau, on se retrouve tout de suite après.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
François Sureau, membre de l'Académie française et mon invité ce matin, il publie « S'en aller » aux éditions Gallimard. Nous parlions de l'influence que la lecture peut avoir sur nous, du pouvoir des livres et des écrivains. Vous disiez que Lupin vous a changé en familier de la nuit, Robin des Bois en familier de la forêt. Est-ce que c'est vrai pour la guerre aussi? Vous avez beaucoup lu sur la guerre avant d'y être confronté. Est-ce que ça vous a aidé?
D'abord, je voudrais quand même en rabattre un peu, c'est-à-dire que j'ai pas été confronté à la guerre de mes parents, de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents, ni même d'ailleurs à la guerre de mes contemporains et camarades, les gens d'actifs, de carrière, qui ont accumulé les expériences de combat dans les positions les plus exposées. Je suis allé dans des endroits dangereux, c'est entendu, c'était la guerre en effet. Mais enfin, je ne l'ai pas vécu avec cette caractéristique principale de la guerre qui est la durée. Ceci est très important. Ce qui fait que j'ai retrouvé dans les expériences que j'ai eues certaines choses qui sont décrites par Junger dans ses journaux, par Genevoix surtout dans ceux de 14, à certains moments par Apollinaire dans L'Heure des Tirs, mais c'était plutôt comme des éclairs, parce que je trouve que la caractéristique principale de l'expérience de la guerre réside dans sa durée. Même si Genevoix a été blessé fin 14 ou début 15, on voit bien dans ceux de 14 que c'est la guerre transforme ceux qui y vont, parce qu'ils y rentrent comme dans un monde entièrement différent dont ils ne savent pas quand ils vont sortir. Or moi, je savais toujours quand j'allais en sortir, j'avais des missions qui étaient limitées en semaines, en mois, etc. Donc je savais toujours qu'à un moment, ça serait terminé. Et puis en plus, c'était dans des endroits extérieurs où la destinée de la nation elle-même n'était pas en cause. Donc la réponse est non. Enfin, certains éclats de la littérature dite de guerre m'ont frappé par leur justesse une fois que j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais l'expérience ontologique en quelque sorte de la guerre que ces livres révèlent, je ne l'ai pas faite. Mais je me souviens que ma plus grande surprise n'a pas été par rapport à la littérature, mais par rapport au cinéma, parce que quand on voit des films de guerre au cinéma, surtout les films de guerre récents, parce que ceux d'avant sont un peu idéalisés, quoi. Bon, on est quand même très frappé. On est dans une salle fermée. Il y a un son Dolby absolument magnifique. L'écran est gigantesque. Ça pète de partout. Il y a du sang partout. On entend des cris, etc., etc. Et donc on est enfermé dans la guerre comme dans la bulle cinématographique. Ce qui m'a frappé la première fois où j'ai eu affaire à un bombardement de mortier en l'espèce, c'était en Yougoslavie. C'est que c'était moins difficile qu'au cinéma. Parce que on n'était pas enfermé dans le spectacle de la guerre. Qu'après tout, il subsistait des endroits du paysage où la guerre n'avait pas lieu. Il suffisait de faire un demi-tour à droite ou de reculer d'un kilomètre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Et donc, à certains égards, le cinéma m'est apparu plus terrifiant que la réalité. Sur le plan des impressions visuelles et auditives, naturellement, pas sur le plan de la réalité charnelle.
La guerre, nous dit-on, est de retour en Europe, mais ça ne date pas d'hier. Vous étiez en ex-Yougoslavie au début des années 90, au moment du siège de Sarajevo, du bombardement de Mostar. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette guerre qui a lieu aujourd'hui en Ukraine ?
Alors, je veux dire d'abord que ce que ça m'inspire d'abord, c'est un sentiment, ce n'est pas une dérobade de ma part, mais c'est un sentiment de compassion pour ceux qui la subissent, et comme pour ceux qui la font d'ailleurs. Je n'ai pas la pensée naturellement géopolitique. Je pense que, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que nous sommes affrontés à des régimes odieux et qui ne nous aiment pas, le régime russe, le régime chinois, le régime iranien, le régime turc, enfin bon. Maintenant, les conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de l'Europe et ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça n'en ait trop grave, je ne me sens vraiment pas capable d'en juger. En revanche, ce qui me frappe, c'est la douleur des victimes et des exécutants. C'est tout ce qu'on ressent quand on est au cul du camion et dont je trouve que on parle souvent légèrement ici. Vous voyez, quand j'entends dire, il faudra envoyer des troupes au sol, il faudra troupes au sol, alors que la totalité de l'armée de terre française tient dans le Stade de France. Mais en dehors même de cet aspect général, me frappe cette espèce de. Je me souviens au moment de la première guerre d'Irak, et ça m'avait beaucoup choqué. Au moment de la première guerre d'Irak, je me trouvais dans un dîner où il y avait des hiérarques, et l'un d'entre eux, personnalité considérable à l'époque, disait « De toute façon, il faudra bien qu'on fasse tuer 10 légionnaires ». Je demande « Ah bon, pourquoi ?» Je précise que je n'étais pas du tout hostile en principe à la guerre d'Irak, mon propos n'était pas politique.
C'était la guerre du Golfe.
La première guerre du Golfe. Parce que c'est une condition pour maintenir le siège de la France au Conseil de sécurité. Et la mauvaise pensée m'a traversé l'esprit qu'il aurait fallu mettre à ce hiérarque un sac au dos et de l'envoyer en première ligne. Voilà.
Des sentiments qu'ont eu nos ancêtres dans bien d'autres conflits. Vous dites également, François Sureau, je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit à l'histoire. Et pourtant, l'histoire de France peut vous émouvoir au point de vous faire pleurer.
Oui, elle m'émeut aussi. Je dis à un moment dans le livre, et c'est vrai, qu'on ne contemple pas l'histoire de son pays sans douleur. C'est-à-dire l'histoire de France m'émeut à la fois, vous savez ce que De Gaulle dit quand il dit la Providence a paru créer la France pour des malheurs, pour des destinées extraordinaires et pour des malheurs exemplaires, je me souviens plus exactement de la formule, mais elle m'émeut pour ça, c'est-à-dire pour deux choses, son caractère réfractaire. La France est réfractaire en 89, enfin tout le monde pense qu'il est normal d'être gouverné par des gars qui ont des plumes dans la tête ou dans le derrière et qui obéissent à des règles d'un autre âge, donc son côté réfractaire. Et même son côté réfractaire, au moment de Chirac-Villepin dans la Deuxième Guerre du Golfe, c'est chose surprenante. Et puis en même temps, et puis réfractaire aussi peut-être, à l'ordre mondial, au commerce maître de nos vies, au matérialisme consumériste, enfin il y a quelque chose de réfractaire là-dedans qui me rend d'ailleurs assez proche très souvent, même certaines fractions de l'extrême-gauche, vous voyez, il y a quelque chose d'intrinsèquement réfractaire que j'aime bien. Et puis de l'autre côté, des erreurs et des malheurs absolument exemplaires. La terreur, l'occupation, la collaboration, une capacité à s'abandonner au pire qui forme l'exact contrepoint de ces moments de grâce lumineuse que Michelet, par exemple, a très bien décrit. Ce mélange des deux me rend l'histoire de France extrêmement difficile, douloureuse à lire, voilà, admirable et douloureuse.
On va en reparler, François Sureau, juste après ça.
Europe 1.
Et dis-moi ce que tu chantes, l'émission de Didier Barbelivien, c'est de 17h à 18h tous les dimanches sur Europe 1. Une personnalité confie à Didier Barbelivien les 5 chansons qui ont marqué sa vie. Aujourd'hui, vous pourrez réécouter Alexis Grus, une grande figure du cirque qui nous a quittés samedi dernier à l'âge de 79 ans. Didier Barbelivien l'avait reçu l'année dernière.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Toujours avec François Sureau qui publie « S'en aller » aux éditions Gallimard. J'insiste sur la dernière citation que je faisais de vous. « Je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit à l'histoire ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oh, ça veut dire que, en réalité, le mécanisme de sans que je sois un adepte de Paul Valéry, qui disait que y accorder trop d'importance, c'était rentrer dans l'avenir avec le regard braqué sur le passé, ce qui n'est pas nécessairement une bonne manière de faire. Mais en dehors de ça, j'ai toujours été frappé par sa dimension de récit romanesque. L'histoire des vaincus n'est pas la même que l'histoire des vainqueurs. La multiplicité des points de vue est difficilement soluble dans l'intelligence. L'enchaînement des causes et des effets est toujours discutable. Et donc on est... et moi-même d'ailleurs... je ne sais pas... alors, évidemment, l'histoire ne consiste pas à bâtir du roman national ou du récit historique. Hein. Mais moi-même, je ne sais pas très bien quel jugement porter à la fin sur des pans entiers de l'histoire de France. Je ne sais pas, par exemple, si la Révolution française a été une bonne ou une mauvaise chose. En France, ce que je vous dis passerait pour un scandale. Bon. Et je précise que je ne suis en rien un maurassien démon. Mais pourquoi est-ce que c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, par exemple? C'est tout à fait banal, mais bon, c'est une bonne chose. Pourquoi? C'est une bonne chose parce que l'égalité devant la loi, la déclaration des droits, un système de droit applicable à tous, etc., etc., c'est une très bonne chose. Maintenant, elle a créé aussi la terreur, le contrôle étatique de la totalité de la société, a remisé les libertés publiques au vestiaire à partir de 92, et ça a largement duré dans les moments qui ont suivi, et a lancé la France dans une guerre européenne, ou dans l'incapacité de régler une guerre européenne, notamment par ce prolongement de la Révolution française qu'est l'Empire, dans des conditions qui ont probablement retardé d'un siècle et le décollage économique du pays et son adhésion aux valeurs qui sont les miennes, qui sont celles de la démocratie libérale de type classique. Et donc c'est très difficile. Je suis d'un côté sensible à la légende, de l'autre côté sensible à la réalité. Et très souvent, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors que reste-t-il à la fin? Il reste, comme pour les personnes dont je parlais, parce qu'au fond, l'histoire, c'est une sorte de biographie collective, il reste cette impression de mouvement auquel je peux être ou non sensible.
Mais est-ce que c'est important de choisir un camp, de choisir d'avoir une opinion sur la Révolution française, non, comme sur la guerre de 14?
Bien sûr que non, mais vous observerez que nos compatriotes, nos camarades français, nous y forcent beaucoup. Par exemple, depuis que j'ai publié ce livre, quand il m'est arrivé de répondre à une interview, la première question c'était: à la fin, êtes-vous de gauche ou de droite? Et j'écoutais ça et je me disais avec une grande surprise que c'est une question que personne ne poserait à un écrivain anglais en Angleterre. Enfin, même pas à Evelyn Waugh, qui passait pour un fiefé conservateur. Il viendrait pas à l'idée des gens de dresser des généalogies où on expliquerait que Dickens était ou non un travailliste façon Tony Blair. Enfin, cette dinguerie de l'opinion politique est une dinguerie spécialement française. En outre, il y a quelque chose qui, en vieillissant, m'apparaît assez français, c'est la binarité. C'est-à-dire, vous êtes ceci ou cela. Je crois qu'on peut essayer de composer les choses. L'une des raisons
d'être
pour lesquelles...
D'être ceci
et cela. En tout cas, qu'il est plus proche de notre nature humaine d'être ceci et cela, à condition, évidemment, de ne pas combiner le ceci du bien avec le cela du mal. Mais il n'existe jamais un seul bien comme il n'existe jamais un seul mal. Ça rend l'exercice plus facile. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré Apollinaire, sur lequel j'avais écrit un de mes livres précédents. Un Français d'occasion, enfin un Français de fraîche date. Au fond... que son origine étrangère va disposer à une espèce de surinvestissement patriotique, au point de s'engager dans l'armée et de faire énormément d'efforts, malgré son âge, sa condition physique, et s'y comporter de manière absolument héroïque, et pire encore, si je puis dire, en y exerçant des responsabilités. Vous savez, quand on voit Apollinaire blessé,
trépané,
on se dit, il a pris une mauvaise balle, on le voit un peu comme une victime. Mais pas du tout, il a décidé de passer de l'artillerie dans l'infanterie de se transformer en commandant de compagnie, c'est-à-dire celui qui dit aux autres en avant derrière moi, et qui exerce,
avec le sifflet,
et qui exerce les responsabilités du commandement. Il a voulu faire ça, il aimait Clémenceau, il aimait le drapeau, et puis de l'autre, il était totalement féministe, il est un des premiers défenseurs des droits des homosexuels, il a défendu le cubisme toute sa vie, et il ne voyait pas en quoi ces choses étaient incompatibles.
Voilà. Justement, un des personnages de votre dernier livre, S'en aller, François Sureau, c'est Kim Philby, grand espion, recruté à Cambridge, alors qu'il est encore très jeune, et qui va lui-même recruter tous les autres, MacLean, Burgess, Cancross, et faire naître le réseau le plus dingue, pour reprendre une de vos expressions, le plus dingue du XXe siècle, qui ensuite, au moment où ils fuiront les uns après les autres à Moscou, va créer la plus grande affaire d'espionnage du siècle dernier, sachant que lui-même est le dernier à partir, tous les autres ont été découverts, il est le dernier. Et quel est votre sentiment à vous, vous qui êtes un patriote, parce que ça, ça fait partie des fils rouges de votre existence, face à un traître ?
Eh bien, c'est une question fascinante. Je crois qu'on ne peut pas être raisonnablement patriote sans avoir éprouvé les limites du patriotisme. Et au fond, Philby sert à ça. L'observation de la vie de Philby sert à ça. C'est pas bien d'être un traître, évidemment. Quand il est convaincu de traîtrise, les écrivains se disputent à son sujet. Il est condamné par la plupart. Et John le Carré et Graham Greene prennent sa défense. Et je crois que c'est
deux grands écrivains du roman d'espionnage.
Et je crois que c'est le Carré qui dit, ou Greene, je sais plus exactement, qui dit, mais qui d'entre nous n'a pas trahi au moins une fois quelque chose de plus important qu'une patrie?
C'est Graham Greene.
Je trouve cette phrase, alors évidemment, c'est un écrivain catholique, spirituel, hanté par le mal, etc. Mais je trouve cette phrase extrêmement, alors, Philby est allé jusqu'au bout, il a trahi sa patrie pour un régime abject et une doctrine absurde. Bah, évidemment, c'est un peu un point limite. Mais en tout cas, sa destinée et les échos qu'elle a suscités font naître ce type de questions. Vous savez, très souvent, les patriotes, quand ils se transforment en nationalistes, reprennent la formule classique « right or wrong, my country hein ». Chesterton, qui était par ailleurs également patriote, ironisait sur cette formule en disant « quand j'entends ça, c'est à peu près comme si j'entendais « vérolé ou pas, c'est ma mère ». Bon, voilà, ça doit amener à... Et c'est une vraie question, c'est la question qu'on retrouve d'ailleurs au moment de l'affaire Dreyfus ou au moment de la torture en Algérie. Jusqu'à quand, à quel moment l'adhésion patriotique peut-elle s'arrêter et au nom de quoi ? Cette question est absolument fondamentale. Et l'expérience limite des espions nous permet... Alors, en plus, chez Philby, ce qui est extraordinaire, mais ça nous emmènerait trop loin, mais c'est que cette tendance était héréditaire, puisque son père, lui-même, qui était le rival de Lawrence, s'était mis au service du roi d'Arabie Saoudite, s'était converti à l'islam et avait été déchu de la nationalité britannique. Donc, en fait, la relation complexe que ces Anglais, plus Anglais qu'on peut être Anglais, avaient avec leur patrie d'origine est assez saisissante.
Mais dans le cas de Kim Philby, il y a quelque chose... Là où la traîtrise ne s'arrête jamais, c'est qu'une fois arrivé à Moscou, il retrouve ses anciens comparses, et la première chose qu'il fait, c'est de coucher avec la femme de l'un d'entre eux.
Et puis, pour le reste, je ne suis pas sûr, c'est le grand mystère de la vie de Philby, je ne suis pas sûr qu'il soit resté loyal à l'égard de l'Union soviétique.
Non, on en est pas sûr.
Les dernières conversations qu'il a avec Graham Greene, qui est allé le voir à Budapest puis à Moscou, permettent à Graham Greene, en sortant de ces conversations, en disant « mais c'était vraiment un traître ou c'était juste un agent double qui a continué d'être au service de la Grande-Bretagne ?» Alors ça, c'est un abîme.
On fait encore une pause, François Sureau, et on continue notre conversation tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec François Sureau qui publie « S'en aller » aux éditions Gallimard. Il y a plein de façons de s'en aller et vous en répertoriez plein dans votre livre. Le voyage n'est pas la seule au fond.
À l'origine de ce sentiment... à l'origine du désir de s'en aller, je pense, il y a l'idée qu'ont ressenti plusieurs personnes, que j'ai ressenti moi-même depuis ma jeunesse, et qui est l'idée que ce monde n'est pas, vous savez, c'est la vraie vie est absente de Rimbaud, c'est l'idée que ce monde n'est que la préfiguration du monde véritable. C'est-à-dire qu'en fait, là, tel que nous sommes, dans ce studio, en réalité, nous ne sommes que les ombres d'un vrai Taddeï et d'un vrai Sureau qui, quelque part, échange des discours entièrement véridiques, dont notre discours ne représente peut-être que 3%.
Oui, une infime partie.
Quand on a ce sentiment-là, en réalité, le rêve est d'écarter le rideau et le voyage, parce qu'il nous arrache à nos habitudes, on peut espérer qu'il nous permet d'écarter le rideau. C'est du moins un espoir qu'ont les gens qui voyagent. Cet espoir est le plus souvent déçu, puisque de l'autre côté du voyage, il n'y a rien que ce qu'il y avait au départ. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle mon livre se termine dans un monastère. Non pas comme une préfiguration, mais parce que c'est le seul endroit où le départ et l'arrivée se mélangent. Ça, c'est le seul endroit où on affronte véritablement cette idée que s'il existe une vérité du monde, ça n'est pas en se déplaçant qu'on l'atteindra.
La Légion étrangère a quelque chose d'un peu similaire,
non ? La Légion étrangère a quelque chose d'un peu similaire à la religion près. C'est avec un personnage célèbre qui avait servi, qualifié la Légion de monastère des incroyants. J'aime beaucoup cette formule. Oui, parce qu'on espère, en effet, trouver... un sens plus vrai, quelque chose de plus authentique, de plus profond, à ce sentiment, par le biais de ce sentiment de camaraderie, d'égalité des personnes, d'oubli du passé surtout, qui est quand même l'un des grands fondements de l'existence de la Légion étrangère.
Et aussi, qui a ça de commun avec les monastères.
Et qui a ça de commun avec les monastères. Absolument, ce côté, c'est fascinant, hein, nous vivons dans une époque qui ne connaît ni l'oubli ni le pardon. Les mécanismes numériques ne faisant qu'accroître cette tendance, ce qui fait que les rares univers où en réalité on peut recommencer une vie nouvelle sont pour l'imagination des univers absolument fascinants. Quand on va alors je ne sais pas si je devrais dire ça à la radio, ça va déclencher des demandes de la CNIL. Quand on va à Aubagne, il y a les archives de la Légion étrangère, sont soumises à un contrôle très strict, etc. Mais ces archives comprennent des dossiers et tout candidat à l'engagement à la Légion étrangère doit raconter exhaustivement sa vie avant d'être admis, le cas échéant, à changer de nationalité, à servir sous identité déclarée, etc.
Et changer de nom aussi.
Et changer de nom. Et quand j'y allais, et ça me fascinait absolument, je demandais certains dossiers. Alors j'ai lu le dossier de Marc Simenon, frère de Georges, de Nicolas de Staël, de Hans Hartung, de Sandrart, qui racontent leur vie avant de s'engager, et ça donne effectivement cette impression que pour eux, c'était la première station d'un nouveau voyage.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de beau monde qui a été dans la Légion.
Il y a tout, il y a même une chanson qui est « On trouve de tout à la Légion, il y a des marquis, il y a des roussins, d'anciens notaires, même des curés qui, nom de nom, baptisent le bon Dieu de sacré nom aux légionnaires.
» Et vous racontez dans ce livre, dans son allée, ce moment très particulier quand on veut rentrer à la Légion, où on vous dit « reste là, réfléchis pendant deux heures ».
Je sais plus si c'est encore le cas maintenant, parce que moi je vous parle d'une période assez reculée, plusieurs décennies, mais ça, au fond de nos gens c'était comme ça, c'est en tout cas... je ne sais pas d'ailleurs si à mon époque c'était traditionnel ou simplement l'officier de permanence ou le sous-officier de garde qui avait inventé ça. En tout cas, on frappe à la porte, on prononce la phrase rituelle « je désire m'engager à la Légion étrangère », phrase qui est très souvent la seule phrase française que les gens qui arrivent connaissent, donc ils prononcent ça avec leur accent particulier. Et puis on les faisait monter au haut du chemin de ronde, et puis le sous-officier de garde disait « on laisse la porte ouverte, t'as une demi-heure ou une heure pour réfléchir à ta vie et tu peux encore sortir, mais quand la porte sera fermée, faudra rester ». Et je trouvais ça absolument magnifique.
Oui, effectivement. Vous disiez tout à l'heure que ce qui vous posait un problème vis-à-vis de l'histoire, c'était l'absence de multiplicité de points de vue. L'histoire, ça nécessite une multiplicité de points de vue. Est-ce que c'est parce que justement, il n'y a pas besoin d'une multiplicité de points de vue que vous avez gardé de vos études de droit l'amour du journal officiel ? Parce que là, au moins, il n'y a qu'un point de vue dans le journal d'officiel.
Oui, alors non, mais ça, c'est autre chose. Nous sortons du domaine de l'histoire. Une chose, j'y reviens, mais quand je dis l'histoire... l'histoire, c'est la multiplicité des points de vue. L'histoire en tant que discipline scientifique, c'est la multiplicité des points de vue. Quand je parle de l'histoire en général, je visais plutôt le roman national, le récit historique à caractère romanesque, etc.
On avait compris.
Non pas l'histoire comme discipline. Mais le journal officiel, alors là, c'est tout à fait différent. Le journal officiel, c'est le poème absolu, c'est le poème de la dinguerie totale.
Mais je me suis demandé si c'était une coquetterie quand je vous ai lu et que vous disiez ça. Je me suis dit, est-ce que c'est une coquetterie ou est-ce que
il est
vraiment sincère ?
Non, mais j'ai passé 40 ans à le lire et je me suis aperçu qu'en réalité, c'était l'un des plus grands symptômes de ce que perfide à pleine guerre le mal français. C'est-à-dire que quand vous lisez ce machin, vous vous rendez compte que, en fait, le travail de l'administration ne consiste pas, ou de la politique, d'ailleurs, dans ce pays depuis une vingtaine, une trentaine, peut-être une quarantaine d'années, peut-être davantage, ne consiste pas à réformer les choses ou à changer ce qui ne va pas, mais consiste à en changer les dénominations, à multiplier les normes qui s'appliquent à la réalité dans une espèce de délire qui rappelle, pardonnez mon blasphème, mais le délire divin dans les récits de la création du monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le ministre dit que les campus d'innovation mondiale existent et les campus d'innovation mondiale existent. Alors, la différence entre Dieu et le ministre, c'est que en effet, la lumière est que les campus d'innovation mondiale n'existent pas. Mais quand on prend un journal officiel sur 5 ans et qu'on voit la somme extraordinaire d'intelligence analytique déployée pour parler de rien, on est quelque part entre Borges et le Gorafi. Et en fait, c'est un symptôme, ça me fascine parce que ça dit quelque chose de nous.
Combien de temps avez-vous mis pour écrire « S'en aller » qui est un très gros livre, hein, « L'air de rien ».
Oh, j'ai mis, ça fait très longtemps que j'y pense, je me souviens, j'ai commencé à vouloir l'écrire après avoir publié mon premier ou mon deuxième roman.
Ah oui, en effet.
Et puis je prenais des notes, et puis je réfléchis. Et puis ça s'est transformé au fur et à mesure de la vie, parce que c'est un peu un parcours de vie en compagnie des écrivains que j'aime. Et quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai mis 3-4 ans. Mais je me souviens quand je voulais faire ça dès le début, en fait, c'est ça ça qui me plaisait. Mon éditeur chez Gallimard avait dit non, pas du tout. On est dans la même situation que Mauriac au début du 19e. Mauriac voulait écrire des romans. À l'époque, il fallait percer en écrivant de la poésie. Et donc, mon vieux, vous allez laisser tomber les romans, vous allez écrire de la poésie. Mauriac n'était pas fait du tout pour ça. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, vous, écoutez, arrêtez avec vos histoires de vaticination personnelle. Là, écrivez donc de bons romans classiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu absolument tort.
Merci, François Sureau, d'être venu nous l'avouer ce matin. S'en aller, c'est paru aux éditions Gallimard.
Europe 1.
C'est arrivé demain, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous animé par Sonia Mabrouk. Rebonjour Sonia, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. Et bien sûr, c'est un grand rendez-vous spécial après l'attaque iranienne. On va essayer de voir quelle pourrait être la riposte israélienne et puis ce jeu de tectonique des plaques dans la région avec un risque d'embrasement. On va en parler avec de nombreux invités.
Et bien, bonne émission Sonia.